Namasté. Très heureux d'être avec vous encore et encore. Et certainement un jour, je vais arrêter, je vais rester en Inde. J'avais donné des différents aspects déjà. On a vu le mariage, la médecine ayurvédique. On a donné des soirées, on a animé sur les différentes façons de s'épanouir. C'est-à-dire, on a touché plein de sujets. Et, ce soir, j'aimerais qu'on passe un bon moment ensemble. Avec des personnes qui nous connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas, de toute façon. Notre recherche, c'est de pouvoir refléter notre intérieur et agir extérieur autour de nous par les transformations que nous avons vécues. C'est ça l'objectif ce soir, de vous parler comment on peut faire ce chemin pour déclencher quelque chose qui peut être intéressant pour soi et aussi pour notre entourage. Et nous, ça fait très longtemps, l'être humain organise d'une façon très... très rationnel mondialement. Quand on parle de la Terre en ce moment, qui s'organise dans des différents pays, comme des différents pays, comme des différents peuples, quelque chose qui est commun, on envoie nos enfants à l'école. Collectivement, nous sommes ouverts à une information qui est diffusée à travers les médias. C'est-à-dire, il y a une sorte de conscience collective qui s'évolue à travers les informations qu'on écoute. C'est pas pareil partout, mais quand même, on voit généralement les peuples qui sont capables de s'ouvrir soit à l'Internet, à la télévision, à la presse. On est en train de devenir capable de ressentir même chose. C'est-à-dire, nous avons des problèmes communs. Nous avons des problèmes communs, et ces problèmes communs, peut-être, qui vont nous donner une solution qui est universelle. Problème commun, c'est on nous informe quelque chose comme si il faut toujours chercher quelque chose. Toujours chercher quelque chose. C'est des messages qui sont diffusés mondialement. C'est-à-dire, un enfant qui arrive au monde et on lui donne cette impression comme si il faut pouvoir chercher, travailler, attendre quelque chose. Pour cela, il faut faire les efforts, faire le chemin, etc. Donc, c'est-à-dire, nous sommes collectivement dans une forme de devenir. Collectivement, c'est-à-dire si on enlève le peuple très, très archaïque, qui sont pas des gens qui vivent dans les forêts, peut-être ils ne sont pas dans cette dynamique, mais collectivement, la majorité sont tout le temps en train de chercher quelque chose, c'est-à-dire on n'est pas confortable là où nous sommes. Et ça, c'est une ambiance qui va aider des agents, que ça peut être le politicien, ça peut être le docteur, ça peut être le banquier, ça peut être l'assureur, ça peut être toute forme de corps de métier dans le monde, ça peut être les religieux, mais ils sont capables d'exploiter cette ambiance qui est généralisée. Vous comprenez? c'est vous, je vous invite également à réagir avec moi pour que notre échange soit collectif. Cette ambiance, c'est-à-dire quand on dit souvent il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est-à-dire il y a quelque chose à changer. Ça, c'est collectivement accepté. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose acquis. Mais vous voyez à quel point ça peut être exploitable pour ceux qui vendent des solutions. Donc, les transformations que nous cherchons ensemble, c'est de pouvoir sortir de ce conditionnement collectif. Ce n'est pas contre les progrès, je ne suis pas contre les changements. Changement, c'est inévitable. Nous devons se réadapter parce que l'univers change. Donc, il n'y a aucun instant de notre vie on peut rester accroché à quelconque valeur, soit ancienne ou ce qu'on a maintenant aujourd'hui. On ne peut pas rester crispé. Si un individu reste bloqué sur une situation, il ne peut pas survivre. Donc on a besoin d'une réadaptation. Et puis c'est le rêve de la vie. Donc il faut vraiment distinguer ces deux propos. C'est-à-dire, aussitôt qu'on rentre dans cette idée de devenir, on est nulle part, on est bien. Aucun instant de notre vie, c'est-à-dire soit on est enfant, on est adolescent, on est grand, on est personne âgée, on est retraité, aucune phase de notre vie, on ne peut pas être parfaitement bien parce que nous sommes conditionnés depuis le début de notre vie à chercher quelque chose qui va nous aider. Donc, il y a un très grand intérêt dans le discours collectif, donc tous les politiciens, tous les dirigeants de pays pendant l'élection, ils nous donnent des promesses, des espoirs. Donc, c'est toujours on ne communique comme si demain sera mieux. Et cette idée que je voudrais profondément réviser pour qu'on puisse trouver un autre chemin. Vous êtes parfum pour ce chemin, n'est-ce pas? Ouais, c'est-à-dire, le discours que je vais tenir avec vous, il n'y a absolument aucun intérêt derrière. Absolument aucun intérêt, c'est-à-dire, je ne peux pas profiter de rien. Par contre, si je vous proposais une remède, voilà, si ça ne va pas, si ça ne va pas, si j'ai quelque chose, une solution pour vous, là je peux vraiment donner quelque chose. Là, il n'y a absolument aucune nécessité de chercher quelque chose que vous. Qui n'est pas là déjà. L'intérêt, je parle dans le contexte du yoga, je parle dans le contexte actuel mondial, je parle aussi dans le contexte des conflits qui existent dans le monde, qui se préparent, c'est pas nouveau. Mais la différence, ce n'est pas dans la même dimension. Par exemple, il y a 2000 ans, on n'était que 150 millions sur Terre. Et maintenant, c'est plus pareil. On est 7 milliards. Et ces 7 milliards, c'est un changement quantitatif et non pas un changement qualitatif. C'est-à-dire, quand on recule dans le temps, il y a eu toujours le même discours. Les anciens toujours disaient que les jeunes, ils s'inquiétaient pour les adolescents, mais après encore, on passe quelques générations après, tout ce qui était des adolescents, le petit qui était là, qui sont devenus grands, qui disent toujours le même discours par rapport à la nouvelle génération. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne change pas par rapport à notre comportement humain. Ça peut être clairement vu dans la littérature qui est écrite il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, il y a un siècle, deux siècles. Il y a quelque chose qui ne change pas. Et il faut chercher quelque chose qu'on n'a pas. Ainsi, une fois qu'on a cotisé à cette forme de pensée, nous devenons vulnérables. Devenons capables d'être exploités. Donc le discours d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est entièrement différent. Cette différence s'explique dans quatre phases distinctes, très claires, très simples. Je ne vous propose pas quelque chose d'extrêmement complexe, il faut être un philosophe. On n'a pas besoin d'avoir des compétences psychiques particulières ou physiquement avoir des capacités nobles. Simple prise de conscience qui est révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est-à-dire, c'est un message qui n'est pas celle que nous avons entendue jusqu'au moment. Les quatre phases. La première phase, je vais traduire mes pensées pour que vous ça vous parle. C'est-à-dire, moi j'ai un cerveau indien qui a été éduqué en malayalam, c'est ma langue maternelle, et ma formation en sanskrit, en anglais, et puis la chance que j'ai eue d'apprendre le français pour pouvoir rester en contact avec vous. Donc, je fais des différentes phases et je formule des phrases pour que ça soit percutant pour vous. Première phase, c'est alpha et oméga. Alpha et oméga. Alpha égale oméga. EST, c'est ça. C'est-à-dire, d'abord on a besoin de neutraliser le conditionnement collectif que nous avons reçu depuis toute notre enfance. C'est-à-dire, nous sommes dans un point A, il faut être dans le point B. Et là, on peut être bien. D'accord? Ça, c'est collectif. Quoi. Donc, collectif, ça veut dire les religieux qui vont vous dire la même chose, les politiciens qui vont vous dire la même chose, les docteurs qui vont vous dire la même chose. Mais tout le monde va me donner cette information. C'est-à-dire, bon, imaginez qu'on souffre de quelque chose, on va vous dire, vous prenez ce cachet, demain, après un certain temps, vous allez être. Mais on ne donne pas toutes les informations. Peut-être on va prendre, on a une pression un peu trop haute dans nos artères, on nous donne un cachet, on dit, ok, vous savez, ça va marcher, votre tension va descendre, mais une fois que la tension descend parce qu'on a avalé un cachet qui va provoquer un problème pour les reins, on va nous donner un deuxième cachet. Et puis un troisième. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne donne pas la totalité de l'information. C'est pareil pour les politiciens, c'est pareil pour les religieux, les prêtres, c'est exactement pareil, parce que ils vont nous dire, bon, après, vous avez à voir, donc ça suffit de croire, et malheureusement, on n'a pas la possibilité de vérifier, quoi. Donc, la personne est revenue après la mort, et pour dire, comme Monsieur le curé,
c'est pas pareil, comme vous avez dit. Donc, première phase, c'est très simple. Très simple, c'est-à-dire aussi simple que ça, une formule alpha et oméga. C'est-à-dire là, vous êtes en ce moment. C'est votre dernière phase d'évolution. Même si c'est ça le message révolutionnaire, parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Parce que on se dit, j'ai des bobos, j'ai du mal, j'ai pas de travail, j'ai plein de soucis, on a une longue liste de reproches par rapport à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Oui, c'est... vous comprenez la difficulté? Aussitôt qu'un individu il n'est pas bien par rapport à sa situation, et là, tous les vendeurs qui viennent et l'exploitent. Donc, pour nous protéger, pour provoquer une sorte de force intérieure, première phase de ce chemin, c'est de savoir que c'était comme ça, c'est bien. On a eu toujours le problème. On a des problèmes en ce moment, et il y aura d'autres. Vous voyez, c'est principal de comprendre qu'il y a quelque chose qui va être toujours pareil. Et tous les efforts pour changer notre condition, je veux dire, j'ai quelques problèmes, je vais régler ça, j'ajoute une machine dans la maison, je vais payer quelqu'un pour régler un problème, mais ce remède qui va nous ajouter des autres problèmes, ainsi, et qu'on va rendre notre vie de plus en plus complexe. Pourtant, on peut immédiatement imaginer, bon, j'ai mal à la tête, je prends un cachet, et c'est fini, j'ai plus mal. On a un résultat immédiat, mais par contre, est-ce que on a réglé pour toujours nos problèmes? Non. C'est-à-dire, chaque reproche que nous faisons par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre entourage, sont des solutions d'un autre problème qu'on n'a pas vu. Par exemple, vous marchez, vous tombez sur un trou et vous cassez le pied. Ça, c'est un problème. Mais ce problème va nous aider à trouver plus de vigilance, plus de visibilité. Vous comprenez? C'est-à-dire, là où nous vivons, nous sommes, et notre façon d'interpréter notre vie, notre entourage, nous-mêmes, notre corps, notre esprit, tout ce que nous vivons, c'est là qu'il y a une nécessité de changement. C'est-à-dire, imagine, quelqu'un fait l'escalade. Mais pourquoi on fait l'escalade? On fait l'escalade, c'est pas pour retrouver quelque chose qui est dans la colline. On fait l'escalade parce que c'est un sport, on aime bien faire ça, parce que c'est un défi, on se donne. Mais imagine si on a oublié ça. C'est-à-dire, on avait oublié pourquoi on est en train de monter et qu'on se déconnectait par rapport à la cause originelle. Là, c'est lui qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais un énorme effort, je prends le risque. Quand j'arrive à haut, il n'y a même pas une tasse de thé. C'est à peu près... C'est ça notre histoire. On n'était pas là il y a quelques années. N'est-ce pas? On est d'accord. On n'était pas là. On n'était pas là, on n'existait pas. On ne sera pas là non plus après quelques années. Vous êtes tous d'accord. D'accord. Mais c'est fabuleux de regarder comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait avant la naissance, avant l'existence, une façon incarnée? Qu'est-ce qu'on désirait? On désirait la vie. Vous comprenez? On n'était pas vivant. Donc, ceux qui n'étaient pas vivants, qu'est-ce qu'ils désirent? Ils désirent la vie. Mais quand on est à l'intérieur de la vie, on désire autre chose. Vous comprenez là, comment on se met nous-mêmes dans un conflit profond intérieur existentiel. C'est-à-dire, je suis en train de vous montrer qu'on peut être heureux, quoi qu'il soit, notre situation, celui qui escalade, peut-être c'est facile, compliqué, quelquefois c'est complètement horizontal qu'il faut faire des mouvements très sophistiqués pour pouvoir traverser des mouvements. Mais en fait, je suis en train d'introduire quelque chose, quand vous êtes face au problème, et changer le regard, ce problème, en fait, vous avez cherché. Ce problème, vous avez désiré. Autrement dit, vivre, c'est un problème, mais en fait, ce problème était notre quête. Donc, on avait besoin de vivre ce problème. Par exemple, un jour, je pense que vous avez vu ce film, les anges rencontrent les gens et puis les deux anges, quand ils discutent entre eux, un qui dit oh, j'aimerais bien tomber. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas tomber parce qu'ils n'ont pas de corps. Et ils voient les êtres humains, ils tombent, ils se relèvent, ils retombent encore. Et ils se disent c'est passionnant. Vous voyez, c'est quelquefois nous-mêmes. On crée notre problème parce que notre façon d'interprétation est grise, de lecture de notre environnement et soi-même est erronée. Donc, le premier cachet spirituel pour désamorcer ce conditionnement collectif, c'est de se dire encore et encore et encore ce que je suis en train de vivre, je cherche, c'est exactement. C'est ça que je désirais. Et pouvoir le redire, même face aux difficultés. Bon, certainement, je ne suis pas en train de dire qu'il faut créer des difficultés. Je suis en train de vous équiper avec une phrase qui va aider à réinterpréter. C'est la première phrase. Et ça va nous repositionner par rapport à notre vie, par rapport à nous-mêmes. Là, nous avons commencé, c'est notre but final. Où nous avons commencé? Nous avons commencé là où les sensations sont générées. On est d'accord, je suis ici, je suis debout et vous comprenez, c'est cette interprétation de dire je suis là, c'est une sensation.
Excusez-moi parce que je vous entends très mal, je dois être fou.
Je ne parle pas assez fort.
Pour le temps, c'est très bien.
Vous me comprenez? Oui. Et, c'est-à-dire, et chacun présent ici, et à une confirmation, je n'ai pas besoin de dire que vous êtes là, vous êtes sûr que vous êtes là. Pourquoi vous êtes sûr? Parce que vous ressentez votre présence, et ça, je n'ai pas besoin de vous donner des moyens pour comprendre que vous êtes là. Chacun est capable de ressentir notre présence, et ça, on ne peut pas, on peut rien faire. C'est-à-dire, je ne peux pas m'oublier. Je suis obligé d'assumer ma présence. Et cette présence, on le ressent là où les sensations sont générées. Ça, c'est les alpha. Oméga, c'est-à-dire notre objectif, c'est retourner là où les sensations sont générées. Et non pas en train de quitter et partir. Et c'est ça notre misère humaine. Le corps reste ici et son esprit part ailleurs. Et nous cherchons, une fois qu'il y a cette séparation, nous cherchons les moyens pour aller encore plus loin. Ou encore plus vite. C'est pour ça qu'il y a. Ça suffit d'avoir un 4L ou un 2. Mais on a envie d'avoir des voitures hyper puissantes, tout en sachant qu'on va ramasser les PV, mais quand même on va chercher d'avoir des voitures plus en plus performantes et rapides. Et en se mettant en danger en plus, et les autres, c'est-à-dire il y a une sorte de recherche instinctif, comme si il faut aller plus loin, et toutes les entreprises sont dans ce dynamique. C'est étonnant de voir, par exemple, maintenant on est aussi en train d'imiter le modèle américain ou européen. Tout le monde a un téléphone portable avec toutes les possibilités. Ça marche, tout va bien. Mais on va nous proposer, chaque 2 mois, il y a un autre modèle qui arrive. C'est-à-dire, il y a une sorte de nécessité pour des vendeurs de venir avec autre chose, hyper puissant, etc. Est-ce qu'on exploite toutes ces possibilités avec un téléphone portable actuellement? On peut tout faire. Je pense qu'il faut aussi ajouter une petite tête de rasoir, comme ça on pourra ça aussi. Apparemment, il y a tout. C'est une façon de nous mettre dans une course interne. Et qu'est-ce que ça donne? On a des bobos partout, on est tendu, on ne savait pas, on respire mal, et on va aller voir des gens pour encore sortir de ce moment. Donc, le message que je vous donne, première phase, c'est sentir votre présence. Ce que vous cherchez, c'est vous-même. C'est ça la formule, la première formule. Ce que vous cherchez, c'est votre quête. Ce qu'on cherche, pourquoi il y a tant d'agitation, cette agitation, c'est on se cherche. Une fois qu'on avait compris ce premier message, vous voyez déjà, nous sommes dans une très grande prise de conscience, très grande prise de conscience, parce qu'on n'est plus manipulable par aucun message. Aucun produit qui est présenté dans la vitrine, aucun service, aucun ministre des promesses, des ministres ou des religions, ça ne va pas marcher. Parce que qu'est-ce qu'il nous a toujours dit? Si vous êtes ici, il faut être là. Là, ce message va être neutralisé. Alors, une fois qu'on est libre de toute cette influence, mais c'est très profond. Là, c'est aucune publicité qui va nous toucher. De toute façon, c'est pas ça qu'on cherche. Vous voyez? Le retour. Deuxième phase. Deuxième phase, vous êtes d'accord pour passer aux deuxième phase? Il y a 4. Déjà, on peut s'asseoir. Sinon, on était en train de courir. tout à l'heure, Daniel m'a dit, c'est super, il y a une conférence je peux m'asseoir à 1h30. C'est vrai, on ne se donne pas cette occasion pour s'asseoir. On est tout le temps en train de faire quelque chose, comme s'il y a une urgence. Il y a une urgence. C'est une ébullition. Mais ça se ressent dans la planète. On n'a pas besoin d'aller à Paris pour ressentir. C'est partout où il y a ce mouvement. Deuxième phase. On s'est assis tranquille. Bon, je ne vous demande pas de s'asseoir le restant de votre vie. D'accord ? Je vous demande de s'asseoir et commencer à sentir ce qui se passe en soi, dans nos sens, dans nos corps, le souffle, tout ça. On commence à ressentir, il y a deux choses. Il y a des changements, des émotions, des sensations. On a des sensations de toucher, on a des sensations qu'on entend, on voit des choses. Il y a des vagues des sensations. Et puis, si vous prenez un peu de temps pour vous, vous allez comprendre qu'il y a autre chose radicalement différente. C'est la présence sans. Il y a quelque chose qui est tout le temps. Il y a quelque chose, il y a des milliards de choses qui passent et il y a autre chose qui est tout le temps. Tout le temps. Est-ce que vous avez senti ça? Vous pouvez me répondre, qu'est-ce que c'est cette chose qui ne cherche pas, qui est présente tout le temps? Le temps, c'est changement, c'est l'abstraction de changement. Et le changement qui nous donne cette idée de temps. Si tout est arrêté, il n'y a plus de temps. Le temps disparaît. Cette idée de temps disparaît quand il n'y a plus de changement. C'est-à-dire le temps est relatif. Pas besoin d'étudier la physique en tête pour comprendre ça. Quand vous vivez quelque chose d'extrême plaisir, d'extrême joyeux, de quelque chose comme ça, vous voyez, le temps est trop vite. Ça passe trop vite. Mais si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, le temps ralentit. Donc en fait, le temps c'est une projection. Le temps n'existe pas. C'est une idée que nous avons créée. Ça, c'est des questions qu'on ne va pas approfondir maintenant, ce qu'on a besoin de savoir. Parmi des pensées, parmi des émotions, parmi des sensations, il y a quelque chose.
Le moi.
Le moi. Alors, donc, la deuxième phase, c'est savoir distinguer. On a appelé le moi. On va approfondir ça. Est-ce que c'est le moi? Qu'est-ce que c'est ce moi? Mais quand même, le moi, on a la sensation que ça ne bouge pas. Je suis là pour observer tout ce changement. Donc vous voyez, c'est comme vous êtes face à l'océan. Les vagues passent, mais l'océan reste. Vous voyez, c'est à la fois deux choses, mais une chose, c'est très éphémère, ça passe et ça passe tout le temps. Et deuxième chose, on n'arrive pas à mettre les mots facilement, on vient de dire c'est moi, pourquoi pas c'est moi, parce que personne d'autre dit que c'est quelqu'un d'autre, on est obligé de se dire c'est moi, mais c'est pas moi.
Alors c'est le jeu.
C'était une des difficultés quand j'ai arrivé en France. J'ai commencé à étudier le français et puis j'ai dit, mais pourquoi on dit moi je? En anglais on ne dit pas, hein, I me, on dit pas ça. dans notre langue aussi, en espagnol, on dit même pas le je. Il y a beaucoup de langues qui évitent de dire le je. Mais en France, non, pas seulement vous. Moi, je. On est bien là. Double affirmation. Tout ce qu'on croit que je suis n'est pas moi. Je me prends pour mon corps, je dis ça c'est moi, je suis debout ici, moi je suis ici en train de vous parler, mais en fait je suis qu'en train de décrire tout ce qui n'est pas moi. Et c'est facile de comprendre parce que je peux me greffer maintenant. Je pense qu'en Russie, ils ont déjà greffé la tête hein, de quelqu'un. Mais on pose des questions, est-ce que la tête était greffée ou le corps était greffé avec une... C'est compliqué. C'est-à-dire, nous sommes capables de, d'avoir les bras de quelqu'un, le cœur de quelqu'un. Donc, le corps n'est pas... Après, on peut dire, c'est des souvenirs... mémoire, les barrettes de mémoire qui est dedans, est-ce que c'est moi? Là aussi, c'est pas. C'est-à-dire quand on cherche à approfondir qui suis-je, on va comprendre qu'il n'y a pas moi. Tout ce qu'on croyait être n'est pas moi, c'était les autres. Par exemple, j'adore cheesecake. Mais en fait, c'était pas moi qui adorais. C'est quelqu'un qui m'a dit, il y a quelque chose comme ça, c'est super, tu goûtes, on me propose. En fait, on a appris à aimer quelque chose, mais c'était pas mon goût, on a appris. Donc ça vient de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a toujours la cuisine de grand-mère. Pourquoi? Parce que c'est pas à nous, quoi. Donc, c'est quelque chose qui vient... de notre enfance, on apprécie, c'est le fondement même de notre premier enregistrement de notre idée, et là on se sent familier, c'est tout, mais absolument rien qui nous appartient. C'est très simple de comparer par rapport à les piments, les Indiens, les Africains, les Amérindiens, ils aiment bien les piments. Mais si eux-mêmes habitaient en France, et s'ils sont nés ici, ils vont dire que c'est pas bon. Et c'est-à-dire tout ce qu'on dit j'aime, donc, ça c'est aussi, c'est conditionné. Ça vient de l'extérieur. Donc la deuxième phase de ce chemin de l'harmonie, c'est de savoir... distinguer quelque chose en soi qui est perpétuellement présent. On va pas mettre un nom maintenant. On va séparer entre ce qui vient et ce qui passe. Par exemple, quand je dis c'est moi, le moi n'existait pas avant. Le moi n'existera pas non plus après. Donc, c'est pas le moi. On ne peut pas donner l'idée du moi dedans. Mais pourtant, on se sent un avec cette présence, cette présence que moi je ressens en moi et ce que vous ressentez en vous, c'est exactement la même chose. Il y a zéro différence. Si vous tournez vers vous et vous regardez ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est exactement pareil pour moi. Là, c'est cette présence que je suis en train de parler, c'est universel. Chez les animaux, chez les Indiens, chez tout le monde. Et ce présence, c'est un principe cosmique, éternel. Mais cette éternité qui habite en nous, on ne peut pas le voir si nous sommes en train de courir vers quelque chose. Vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est on ne se donne pas temps pour apprécier tous les cadeaux que nous avons déjà. C'est-à-dire, j'ai une amie, elle est extrêmement active et dynamique. Donc elle fait plein de choses. Elle est présidente de plusieurs associations. En plus, elle travaille, les enfants, et son mari, sa maison, et tous ses loisirs. Si. Un jour, elle m'a raconté, quand elle a 5 minutes, elle s'assoit dans son canapé. Après, elle a un problème. Pas bien parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est-à-dire, on existe à travers ce qu'on fait. Vous comprenez? Et on n'existe plus à travers ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, si on ne fait rien, la société dit que ça ne va pas, quoi. C'est quelqu'un qui est assis sous un arbre. Vous êtes quoi? Vous êtes Bouddha ou quoi? C'est-à-dire, le moral de la société actuelle, c'est quelqu'un qui doit produire, travailler, plus. Et donc, on rate une autre valeur essentielle. Cette valeur essentielle, c'est-à-dire, c'est lui qui ne fait rien, accomplit l'impossible. En faisant rien, vous allez attendre ce qui est impossible. Qu'est-ce que c'est qui est impossible? Impossible, c'est je suis dans le point A, et quand j'arrive dans le point B, je serai heureux, et puis j'arrive dans le point B, il y a le point C. Ça veut dire atteindre un objectif de bien-être conceptuel dans cette recherche extérieure. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire, à travers cette deuxième phase, ce que je suis en train de vous parler, c'est comment être bien partout. Soit dans le point A ou B ou C ou X, et partout on y va. Ça, c'est possible quand on arrive à bien distinguer dans nos sensations d'être. Là, on va comprendre qu'il y a des sensations sensorielles, il y a des émotions qui se passent, les rêves, les pensées. Tout ça, ça se passe dans un champ de conscience. Ce champ de conscience, c'est comme un tableau qui reste là. Quand on commence à interroger, qu'est-ce que c'est ce champ de conscience qui ne change pas, qu'on ne peut pas décrire parce qu'il n'y a pas de forme. Regardez, on cherche à comprendre l'écran et les images, on dit, mais c'est indéfinissable. Les images, on peut dire, ben, ça c'est bleu, ça c'est blanc, etc. Mais l'écran, indescriptible. Devant quelque chose qu'on ne peut pas nommer, c'est la raison pourquoi on ne veut pas passer plus de temps tranquille. Quand on s'apaise, la paix descend dans votre corps, dans votre esprit, évidemment, qu'est-ce qu'on ressent? C'est trop bon, ça ne va pas. On a besoin de remuer un peu pour partir. Donc, la deuxième phase, c'est très difficile parce qu'on est entre les deux mondes, le monde de changement et le monde de présence perpétuelle. Donc, ça suffit de changer le regard. On a la possibilité, tout le monde a cette possibilité de regarder droite et gauche, un côté éternel, l'autre côté éphémère. Cette capacité distinction va vous donner la possibilité d'aller au troisième phase. Ça va? Vous comprenez tout? On est prêt maintenant pour se lancer troisième phase. Dans cette recherche d'harmonie, donc je vous répète, pourquoi on cherche l'harmonie, c'est pour pouvoir donner à notre environnement une qualité de présence. Parce qu'on n'est pas seul, on est toujours entouré avec des gens. Ils vont ressentir ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est une façon non verbale, c'est contagieux, le bien-être. Troisième phase, on va un peu se détacher de toutes ces vagues de pensées, de toutes sortes de émotions, des idées qui passent, des sensations qui passent. Vous êtes assis, vous allez sentir des douleurs, des gènes, toutes sortes de sensations. Vous allez regarder comme ce qui pleut. C'est comme le temps. On regarde le soleil se lève, se couche, quelquefois il fait chaud, il fait beau, il fait froid, et c'est couvert, etc. Plein de choses. On va laisser tomber tout ça. Ça, c'est bien pour parler pour nous. Quand il n'y a rien à dire, parce que c'est quelque chose qui nous aide à se connecter avec ici et maintenant, et on est bien. On va se détacher de tout ce qu'on a cru que nous sommes, et on va se concentrer sur cette partie innommable. Là, je reviens sur cette idée. Donc, tout à l'heure, on a dit c'est le moi. Après, on dit, on ne peut pas dire c'est le moi, c'est le champ de conscience. Maintenant, le champ de conscience va sentir sa propre existence dans l'ampleur, dans la profondeur. On va être confondu par quelque chose qu'on n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas senti quand on était entre les deux, ça veut dire entre les sensations, entre les non-sensations, cette simple présence, on a oublié, on a laissé tomber les changements, on est face à l'immensité. On va dire, mais tiens, jusqu'où maintenant j'ai vécu dans un monde limité, parce que qu'est-ce qu'on dit? Mais on est tout le temps en train de parler combien ça coûte, combien ça pèse, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la hauteur. On est dans le quantifiable. Nous vivons tout le temps dans un monde quantifiable. Combien je gagne, combien je perds, combien je dépense. C'est en fait tout le temps mathématique. Tout le temps en train de mesurer, juger. Ce monde, on s'éloigne de ce monde et on va se mettre devant l'immesurable. C'est-à-dire, toute notre vie, on était avec nos instruments de mesurer. En fait, notre éducation, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris à compter pour pouvoir mesurer. Pour qu'on soit plus tard maçon, n'importe quel travail, partout on a besoin de mesurer. Donc nous vivons dans un monde quantifiable, et là on va entrer dans un autre monde où on ne peut plus mesurer, parce que c'est immesurable, c'est que qualifiable. Je cherche à savoir, est-ce que cette conscience que je découvre, est-ce que ça a commencé quelque part? Non, ça n'a pas commencé. Est-ce que ça va finir un jour comme lumière, une ampoule qui grille et puis ça s'éteint? Non, on va comprendre que ça s'éteint. Je suis en train de parler de nous-mêmes. Donc, à l'intérieur de nous, il y a présence éternelle. On va commencer à découvrir progressivement. Alors, ça va nous étonner tout le temps. Parce que ça ne monte pas, ça descend pas. C'est tout le temps pareil. Je suis un explorateur de conscience. D'accord? Je parle de mon expérience. Pourquoi je parle de mon expérience? Parce que par cette rencontre que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous, cette immensité qui nous habite à l'intérieur de chaque personne qui est éphémère, vous voyez, c'est deux dimensions. Je suis à la fois mortel et immortel. Et cette immortalité que je ressens, de façon plus en plus affirmé, on va se sentir, c'est quoi, c'est jamais haut, c'est du pH 7, quoi. C'est pas plus, c'est pas acide, c'est pas amer, c'est pas sucré, c'est un goût de soi. Un goût qu'on n'a pas senti jusqu'au maintenant. Un goût de paix. C'est qualifiable, c'est pas quantifiable. On ressent, ça nous donne des capacités et que dans le monde de quantifiable qu'on appelle amour. C'est-à-dire, comment on se sent tellement habité par, c'est-à-dire irréfutablement habité par. Ça, c'est-à-dire, je ne peux pas m'en débarrasser parce qu'il est là. Je ne peux pas refuser. Je ne peux pas l'oublier parce qu'il est présent tout le temps. Et ça nous donne comme si on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose parce que ça ne s'ajoute pas. Je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que je ne peux pas le perdre. Une sorte d'assurance intérieure qui se développe. La paix intérieure commence à développer. Et puis, quelqu'un qui est fâché contre nous, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qu'il rate. Ça veut dire qu'on arrive à pardonner. On arrive à donner. Parce que de toute façon, cette immensité qui est en moi, qui n'a pas de prix, qui me donne tout, parce que un apaisement incroyable, donc je ne peux plus attacher à quelque chose, je peux donner. Là, on va ressentir que cette présence, c'est la présence d'amour. Vous voyez, c'est la troisième phase qu'on se sent cette plénitude qui grandit à chaque instant et comme. On est embêté parce qu'on ne peut pas le partager. On ne peut pas le dire parce que c'est ineffable. On n'a pas des mots pour expliquer. Arrêtez-vous de courir. Vous savez tout dedans. Vous n'arrivez pas à le dire parce qu'on n'a pas quelque chose à montrer. Regardez, si vous arrêtez un peu, ça va calmer. Vous allez être bien. On n'arrive pas à faire sentir ça. Là, on va ressentir une sorte de frustration. Je suis confondu avec tiens, je suis tellement riche à l'intérieur de moi, et les autres aussi, mais ils ne réalisent pas, parce qu'ils sont trop pressés, trop occupés. C'est-à-dire, nous ne trouverons pas l'objet de nos recherches, parce que nous sommes préoccupés par nos objets de recherche. Imaginez que vous cherchez quelque chose, votre esprit est occupé par cet objet de recherche, même la personne ou les choses que vous cherchez se présente devant, on n'est pas prêt. On n'est pas ouvert, on n'arrive pas à le recevoir. C'est ça le premier alpha, ce que je vous avais expliqué, alpha et oméga. C'est déjà là. Vous comprenez? Et à partir de ce troisième phase, nous pouvons ressentir la quatrième. Je vais vous mettre un petit peu à côté ou je ferme. Je pense que la lumière qui vous gêne. Ça va, c'est pas grave. Alors, vous êtes prêts pour le quatrième phase? On va pas arriver au quatrième phase parce qu'après, il faut aller loin pour comprendre comment cette harmonie peut agir autour de soi. La quatrième phase est fantastique, plus intéressant, parce qu'on a vécu la plénitude intérieure, on se sent bien avec soi, mais on est quand même loin de ce monde d'agitation. Donc on était préoccupé par ce chemin vers l'intérieur, pour comprendre ce qui nous habite, qui m'anime, etc. Donc on avait compris cette présence intérieure qui est noble. On n'est pas plus haut que les autres, même les fourmis ressentent la même chose. On va tourner notre regard vers le monde extérieur. Et là, pour notre plus grande surprise, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ce qu'on a vu à l'intérieur s'exprime dans une façon beaucoup plus jolie et colorée. C'est-à-dire, ce qu'on avait trouvé comme expérience inoubliable, une expérience immesurable, cette plénitude en lumière, cette plénitude, on va le revoir dans un arbre, dans le soleil qui se lève, le nuage qui passe, les personnes qui nous entourent. On va reconnaître, on va reconnaître ce qu'on avait vu à l'intérieur dans le visage de chacun. Bon, peut-être on a besoin de vivre ça, nous avons la possibilité de vivre ça, mais c'est là qu'on va radicalement changer notre expérience de vie. C'est-à-dire, ce qu'on avait vu interprété comme problématique, maintenant on va réinterpréter comme quelque chose de magnifique. Un œuvre d'art, une symphonie cosmique, un théâtre qui se déroule. Et là, on est dans un certain auteur mystique, poétique. Et c'est-à-dire, ce qui est important pour nous, notre vie, pour notre société, ce changement va apporter une différence de nos relations à autres. C'est-à-dire, quand mon fils est plus important que le fils des voisins, la guerre. Comprenez la cause de guerre, c'est dans le même bâle-là, on dit ça. Pourquoi il y a la guerre? Par l'égoïsme. Chacun individu pense que c'est sa vie est beaucoup plus importante que la vie des autres. Ses intérêts sont plus importants que les intérêts des autres. Et aussitôt qu'il y a cette différence, la guerre est assurée. L'harmonie est disparue. Il n'y a plus d'armes.
n'y a plus d'harmonie, même si on amène énormément de réformes dans nos fonctionnements dans le monde. Imaginez que s'il n'y a qu'un seul pays, il y a un seul drapeau, il n'y a plus de frontières, il n'y a qu'un seul banque, un seul remède pour tout le problème. On peut tout essayer s'il y a cette différence de soi et l'autre. Quand il y a cette différence, distinction, de séparation, quand il y a cette séparation, la paix est impossible. C'est-à-dire, l'harmonie telle que je suis en train de vous parler est possible quand, dans vos regards à l'autre, si vous retrouvez, vous reconnaissez ce que vous êtes dans les yeux des autres, là, il y a l'harmonie. Ça, vous pouvez pratiquer ça tout de suite. Ça, vous pouvez le ressentir tout au long de votre vie et partout. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus attaquer personne. Nous ne pouvons plus faire du mal à notre personne. Nous ne pouvons plus regarder, pas seulement, c'est pas des idées religieuses, comme il ne faut pas faire du mal, c'est pas ça. On ne peut plus faire, c'est pas parce que c'est écrit que tu ne tueras point que je ne vais pas tuer, parce que je ne peux plus faire ça. Geste de faire du mal par aucun prétexte, parce qu'il est oppressant. Là, c'est vous ressentirez certaines modes de fonctionnement qui n'est pas inscrit dans le mécanisme de la peur. C'est-à-dire, nous pouvons vivre sans l'absence de peur. Cette absence de peur, quand vous ressentez cette absence de peur, et chacun de nos cellules qui va ressentir certains bien-être, je veux dire, problème de santé physique ou mentale, problème dans la société, dans la famille, partout. Tout ça est généré à cause de cette non-reconnaissance de l'autre en tant que soi. Non-reconnaissance. Mais en tant que soi, c'est-à-dire on a vu clairement ce qui m'habite, ce que je crois que je suis, c'est la même chose pour vous. Là, l'autre peut être différent. Physiquement, l'autre peut être différent dans ses goûts, dans ses façons de fonctionner, peu importe, chacun est précieux. C'est-à-dire, on ne peut plus voter pour quelqu'un. Vous comprenez la difficulté, parce qu'on est dans le deux camps. On ne peut pas être pour ou contre. C'est-à-dire qu'on a besoin de reformuler notre gestion publique. Il faut pouvoir trouver autre chose pour gouverner un pays. Quoi. C'est-à-dire sans quantitativement compte. Quoi. Donc, c'est tout le temps quantitatif. On ne cherche pas. Est-ce qu'on est d'accord pour avoir notre président? Non, on n'est pas d'accord. Il y a une grande partie qui ne sont pas d'accord. Mais on s'oublie. C'est-à-dire, il y a une difficulté de séparer. On ne peut pas séparer parce qu'on est un. Il n'y a qu'un. Donc, le un va devenir précieux, important. Et ça, c'est le fondement de l'harmonie qui va guérir les problèmes du monde. Petite pause pour vous laisser parler.
Tu n'avais pas eu ça.
parle que de ça. C'est bien.
C'est bien.
Pourquoi je parle encore et encore et encore?
Parce que j'ai pas été.
Est-ce que ça a changé dans votre vie?
Question. Non, je ne sais pas ça.
J'ai raconté l'histoire d'un prêtre dans l'église et j'ai raconté mais c'est ton prochain comme toi-même, etc. Et semaine d'après, tout le monde revient, commence à redire exactement le même discours. Est-ce que vous avez commencé à faire? Le message, en fait, c'est toujours pareil. Et la façon, le langage utilisé, la position normale, pour toucher le cœur, c'est pour pouvoir déclencher une réflexion, pour pouvoir convaincre notre inconscient, notre partie enfant derrière, qui a toujours entendu le contraire. On a besoin de sortir de ce mécanisme. Je vais prendre un autre chemin si vous voulez pour vous dire la même chose. C'est de trouver certains bien-être et que ce bien-être soit contagieux.
À ce moment-là, ça fait une société parfaite.
Ça, c'est un problème, c'est ça que tu dis?
Non, ouais, je dis, je ne pense pas que ça puisse arriver parce que c'est, à ce moment-là, la société, toute société serait parfaite. Pas possible.
Et puis on s'est incarné quand même, on a choisi ce qu'il veut dire. Dans cette incarnation, toutes ces difficultés pour nous faire prendre conscience de ça. Donc il faut qu'on passe par là pour. Ça sera les uns entre les autres. Dans une même société, au même moment, c'est bien tard que ce soit un peu difficile. Parce que la contagion, c'est plus quand on est amené par les mauvaises idées que par les bonnes, par les mauvaises pensées. Il n'y a pas assez de personnes, je dis personnes, des petites parcelles qui ne pensent pas la même chose, qui commencent à prendre. Ça ne fait pas basculer. Alors on peut amener, on peut le faire, on peut y avancer. C'est notre mission, c'est
oui, en fait. Hein. On peut prétendre,
mais,
on peut tendre.
Voilà.
Ce qui est en train d'exprimer, c'est tout ce que j'ai dit, c'est une utopie.
Non, on peut tendre.
On peut tendre.
Oui. On peut. Dans les nuages, la perfection existe. Mais concrètement, elle n'existe pas. Bon, mais on peut toujours tendre.
C'est pas une question de perfection.
question.
Je vais réagir par rapport à cette pensée qui était partagée. Cherchez pas le changement global. Mais d'abord déclencher le changement local.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et le reste, on ne contrôle pas. Ça se suit. Ça se suit.
Si chacun de nous commençait par lui, sans se dire que les autres ne feront pas, ou ne... déjà, trouver la paix en soi, c'est déjà, ça nous permettra, petit à petit, que le monde trouve la paix. C'est pas possible autrement si on ne trouve pas la paix en soi. C'est pas, on peut parler pendant des heures, et si le voisin ceci, et si les uns, je crois que le plus difficile, c'est ce que tu as dit au début, c'est-à-dire de rentrer en soi, de prendre le temps de s'arrêter, et d'avancer, de trouver la paix en soi. Et petit à petit, notre vision des autres et notre, comment dire, on ira vers les autres d'une autre façon et les autres nous regarderont d'une autre façon.
Oui, c'est les autres qui...
Non, c'est pas les autres, c'est moi.
Non, mais, non, mais les autres viendront plus volontiers.
Là, on se préoccupe pas. Regardez, il y a certains problèmes, je vous remarquais. Il y a des gens qui travaillent pour la paix, sont des politiciens. Mais je regardais comment ils sont arrivés à leur poste. C'est clair que c'était un combat pour eux pour arriver là. C'est-à-dire
un combat pour avoir la paix.
C'est avoir la poste de ministre ou de dirigeant d'un pays pour qu'il arrive. Il fallait qu'il y ait un tout autre peuple derrière qui le soutient pour qu'un peuple derrière cet individu pour qu'il le soutienne. Il faut qu'on favorise, il faut qu'on fait quelque chose pour eux, c'est-à-dire agir pour tous ces gens en faisant un incroyable sacrifice de ses propres valeurs. Quand on arrive à la poste pour faire la paix, on a déjà été contre la paix. Donc c'est lui qui a combattu, qui a fait plein de choses pour arriver là. Et puis, on lui demande de faire le contraire de ce qu'il était en train de faire tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Récemment, Winston Churchill et Hitler, les comportements, on a étudié. En fait, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est-à-dire, dans leur histoire personnelle, on voit que c'était chaotique. Mais je n'ai aucune gloire par rapport à parler de Gandhi et Néo. Regardez leur vie personnelle, c'est chaotique, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on est dans certaines très grandes trahisons collectives et que nous confions notre énergie, notre force aux gens qu'on ne croise que dans les journaux, dans la télévision. C'est-à-dire, il y a une sorte de séparation de notre puissance, notre capacité de décision. Donc on confie notre capacité de décision à quelqu'un d'autre et qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est parce que notre notion de pays est très grande. C'est pas le village qui décide de tout. On fait partie d'une idée de très grand pays. Et ça nous donne tout ça. Concentration de pouvoir. Et ça nous amène certaines pauvretés. Et tout ça, c'est parce qu'on se séparait de nous. Donc, pour changer cette tendance, nous avons besoin de faire des demi-tours. Nous avons besoin de devenir réfractaires à ce message collectif, de dire bon, vous allez faire ça et que vous allez avoir autre chose, que demain ça arrive et tout. Ça, il faut complètement abandonner
à ce moment-là, c'est-à-dire on n'est plus en train d'attendre pour quelque chose qui nous arrive. Donc, quand je lis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Pentateuque, toutes sortes de livres sacrés, il y a toujours, on dit, on attend. On attend l'arrivée d'un Messie ou quelqu'un, un sauveur, quelqu'un qui va venir nous sauver. Mais en fait, ça c'est le mensonge collectif. Mmh. Le seul sauveur, c'est soi-même. Et quand on se met dans ce dynamique, les individus peuvent régler son problème existentiel, parce qu'on va ressentir cette plénitude intérieure. Et à partir de ce moment-là, certainement, on peut occuper la place pour créer la paix. Et pas avant. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très intéressant récemment qui s'est passé en Inde. Notre premier ministre, Narendra Modi, demandait tous ses ministres de pratiquer les écoles.
Oui. C'est génial. C'est génial.
Bon, je ne peux pas vous dire que il a réussi à mettre sur le tapis tous ces gens qui s'accrochent à leur place, leur trône quelque part. Mais quand même, ça fait du bien pour tous ces politiciens se mettre sur les épaules, sur la tête, dans les conseils d'art, etc. Pour que ça circule bien chez eux, c'est pour qu'il y ait plus de paix en eux, quoi. C'est-à-dire combien de politiciens qui vibrent spirituellement, il n'y a pas quoi. Ils ont appris à jouer un rôle devant les caméras. Hein. Ils ont appris, vraiment appris ce métier de mentir. C'est un métier de mentir.
Ça rapporte.
Comment mentir de façon exceptionnelle,
naturelle.
Et pourtant, quand on le regarde, je peux critiquer George Bush le lendemain de. En septembre, il arrive devant la caméra et tout ce qu'il dit, c'était des mensonges parce qu'il savait. Vous voyez, c'est-à-dire on le demande de mentir. Ça se voit, ça se sent, ça suffit de regarder attentivement. Donc on a besoin de comprendre comment notre intérieur est fabriqué et tout ce qui se passe à travers les quatre faces que je vous avais parlé, et là il y a la possibilité de regarder. Donc le deuxième volet que je voulais vous parler, c'est ça, l'harmonie, c'est-à-dire partout où je regarde, je vois l'extension du monde. Ça, c'est la naissance de l'homme cosmique, de la femme cosmique. C'est-à-dire, on se sent partout présent, on se sent responsable, on se sent impliqué, même les choses qui se passent loin de soi. Nous devenons capable de déclencher cette transformation. Et une des paraboles que j'adorais toujours dans la Bible, c'est comparer le royaume des cieux comme une femme qui prend un petit peu de levure, elle mélange avec la pâte et elle fait du vin. Pardon ? C'est-à-dire peu de choses changent qualitativement la totalité. C'est-à-dire nous avons besoin des individus comme ça. pour déclencher le changement. C'est-à-dire, c'est mon demande. Chacun qui m'entend, son présent ici, peut devenir le facteur déclenchant d'un changement. Même si c'est improbable, même si c'est difficile, c'est pas ce sont dit, mais moi seul, comment je peux, parce que les autres, il faut que bien plus du monde fait la même chose dans ces cas. Donc il dit, bon, je ne jette pas les plastiques dans la rue, mais tout le monde ne le fait pas, donc c'est pas comme ça. Ce changement d'un individu va créer l'alchimie dans le corps cosmique de l'humanité. Il y aura un changement. Un exemple, je vais vous donner dans l'histoire de l'Inde. L'Inde a vécu 800 ans de colonisation des Arabes. 800 ans. C'est pas un peu, c'est 800 ans. Après 2 siècles, les Arabes. Ça fait 1000 ans. 1000 ans. Pendant 1000 ans, je me demande, mais pourquoi personne n'a rien dit? Pendant 1000 ans, imaginez, c'est 50 générations, c'est incroyable. Pourquoi on n'a rien dit? Pourquoi on n'a rien fait? On arrive vers le 20e siècle, petit à petit, un individu, deux individus, trois individus commencent à apparaître, mais sont, par rapport à cette époque, 300 millions de gens, des Indiens à l'époque. Il n'y a que 300 millions. 300 millions d'individus. 300 millions d'individus. Et sur ces 300 millions d'individus, peut-être 5 ou 10 personnes ont décidé que l'Inde peut changer son histoire. Maintenant, pour le progrès, on n'a pas besoin de colonisation. Pourtant, les Anglais, nous, on amène le chemin de fer, on amène plein de choses, regardez tout ça. Mais en fait, ils ont amené tout ça, c'est pour eux. En fait. On ne peut pas dire qu'il faut coloniser un pays pour que le pays soit capable de développer. C'est-à-dire, ça suffisait quelques individus, ça crée un changement général. C'est-à-dire, ils n'ont pas pensé, tout simplement. C'est-à-dire, on avait les cotons qui poussaient partout, et les gens avaient les méthodes pour fabriquer les vêtements. Au lieu de faire ça, ils vont acheter les produits qui venaient d'Angleterre, mais les matières premières qui partaient d'Inde. Qu'est-ce que ça a donné? Réduisait toutes les personnes qui vivaient avec ce métier de tissage, crevaient de faim, ils sont morts. Non, bien. Vous voyez, c'est-à-dire, ça c'est un exemple, mais il y a plein de choses comme ça à raconter. Mais ça suffisait quelques individus. Et je souhaite que, pas seulement, c'est un souhait, mais je désire que chacun de vous devienne un facteur de transformation par votre propre. J'espère que j'ai été capable de vous communiquer ce qui m'anime au fond de mon cœur. Et je voudrais vous parler aussi, que vous partez quelques petites choses.